Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cette balado-diffusion sortie de zone du lundi 18 novembre. Avec nous en studio, Alexandre Pratt de La Presse Plus. Salut Alexandre.
Salut.
Philippe Quentin qui est frappeur ambidex de La Presse Plus et du 98.5. Salut Philippe.
Salut Jérémy.
Et Guillaume Lefrançois également de La Presse Plus. Salut Guillaume.
Salut Jérémy.
C'est moi, Jérémy Rainville, en remplacement de Mario Langlois. Messieurs, bienvenue à cette édition de sortie de zone du lundi 18 novembre. Beaucoup de sujets chez le Canadien de Montréal. C'était un week-end en dents de scie avec une victoire face aux Capitals de Washington, 5-2, victoire que personne n'a vu venir, et une défaite en prolongation de 4-3 face aux Devils New Jersey, une formation qui patauge dans les bas-fonds de la Ligue nationale. Mais la grosse nouvelle, ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est qu'il y a des blessures majeures à des joueurs. Entre autres, on parle de Jonathan Drouin, une blessure à un poignet. Il y a Paul Byron également, on parle d'une blessure au genou. Et on peut parler d'une période d'absence de plusieurs semaines. On n'a pas parlé de jours, mais de plusieurs semaines. Donc, on peut parler quoi? 4, 6, 7 semaines? Bref, personne ne le sait. Guillaume, t'étais là ce matin.
Ben, c'est ça. Puis, en fait, Claude Julien, la raison pour laquelle il parlait de plusieurs semaines, c'était que, dans le fond, le Canadien veut attendre de voir ce qui va se passer pendant l'opération. Et parce que c'est souvent au moment de l'opération qu'on découvre. On le sait, on l'a vécu avec Shea Weber l'été dernier. Mm-hmm. Des fois, quand t'ouvres, comme on dit, pour opérer.
C'est là que tu trouves des bobos.
Des fois, tu trouves des petites choses, puis des fois, ça peut changer la durée du pronostic. Là, donc,
Mais messieurs, moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu, parce qu'on dit encore une fois que du côté de Jonathan Drouin, c'est pas la mise en échec d'Alexander Ovechkin. On dit que c'est en troisième période que c'est arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu un geste qui pourrait porter une blessure à Jonathan Drouin? Alexandre?
J'ai pas vu de geste. Par contre, il a joué six shifts en troisième période contre Washington. Ça a pris aussi du temps avant qu'on annonce l'opération. Ça a pris 2 jours. Alors, tu sais, au feeling, il devait être très enflé. Je suis pas médecin, mais le raisonnement voudrait que son poignet devait être quand même pas mal enflé puis qu'il devait attendre justement d'avoir une réduction pour voir l'ampleur là, de la blessure. Mais il a quand même été capable de jouer en troisième. Donc, ça pourrait laisser croire que c'est probablement pas survenu sur la mise en échec d'Ovechkin. C'est difficile à dire.
Moi, j'ai quand même été étonné qu'il joue en troisième. Ouais. Je pense que le Canadien avait déjà un coussin. On aurait très bien pu le reposer compte tenu de la charge, du choc qu'il a encaissé. Il est passé par le protocole des commotions cérébrales. Les résultats sont négatifs. Tant mieux, c'est réconfortant, mais on ne sait jamais le lendemain qu'est-ce que sera le résultat, parce qu'on l'a vu plus d'une fois. Les symptômes arrivent le lendemain. Alors, dans le contexte, je pense qu'on aurait très bien pu jouer de prudence chez le Canadien et puis lui donner congé en troisième période. Maintenant, s'il s'est blessé après ça, on ne le sait pas. C'est pas clair. Et puis, on va parler tantôt de l'impact de son absence sur l'équipe. Mais avant de parler de ça, je veux simplement dire comment je trouve ça triste pour Jonathan Drouin. Ouais. Tu sais, après l'été qu'il a eu, où il y a eu beaucoup de pression médiatique partout, mais il a été très présent, il a fait face à la musique, il était dans les tournois de golf, il a répondu aux questions, il a dit cette année, je veux revenir fort et tout. Il a un camp d'entraînement très décevant, mais un début de saison spectaculaire. Tout le monde est content. On le sent qu'il est sur une rampe de lancement et là, bang, arrive une blessure comme ça qui va le retarder de 6 à 8 semaines. Puis là, après ça, il faut qu'il reprenne sa forme de match. Ouais. Puis ça, il sera pas ça va prendre 2 mois là, avant qu'il revienne. Le Jonathan Drouin qu'on a vu en début de saison.
Ouais.
Je trouve ça vraiment une grosse
malchance. Parce qu'en fait, une blessure, la bonne nouvelle un petit peu, c'est que le poignet, c'est quand même une blessure qui se guérit bien. Là. Les joueurs qui sont blessés au poignet, ils reviennent à 100%. Ils reviennent assez rapidement. On parle de 6 à 8 semaines, une blessure normale. Là. Il y a des cas que ça va jusqu'à 3 mois, mais c'est vraiment des exceptions.
Mais quand tu es un joueur de talent, tu as besoin de tes mains, ça peut être un peu.
Ben, c'est ça. En fait, c'est quand il va revenir, en fait, il va avoir des raideurs. Là. C'est niaiseux, mais au début, juste lever la rondelle, c'est difficile quand on revient d'une blessure au poignet. Fait, c'est sûr, quand la 6e, mettons, la 10e, 11e, 12e semaine, tu ne reviens pas tout à fait à 100%, mais pour encourager les fans du Canadien, Patrick Kane a déjà eu cette blessure-là, puis il y a quand même des pas permis aujourd'hui. Mais tu sais, ça ne reviendra pas à Noël là, comme c'était au début de la saison.
Hey, messieurs, je lance ça comme ça, juste savoir, vous autres, la mise en échec d'Ovechkin sur Drouin, vous la trouvez correcte?
Moi, ça méritait 2 minutes pour assaut. Je pense que les pieds ont quitté la patinoire. Là. Ça méritait 2 minutes, mais sans plus. Je vous ai puis après le match, j'étais là à Washington, puis après le match, il n'y a personne vraiment chez le Canadien qui était outré par la mise en échec, à part peut-être justement de penser qu'il aurait pu être pénalisé, mais personne voyait une suspension là ou un coup. Ça restait que c'était quand même un joueur qui était admissible pour être frappé.
Mais Claude Julien a déploré le fait que les patins ont levé du côté
de l'Ovechkin. C'est ça. C'est vraiment la seule partie du coup que j'ai moins aimé.
Okay.
Mais ça demeurait un contact d'épaule à épaule. Et c'est ça. Et c'était pas gratuit. Je dis, Drouin était admissible.
Moi, je trouve ça dommage qu'un bonhomme qui mesure 6 et 3, qui est pas loin de 250 livres, vise un gars comme Jonathan Drouin. Pour moi, l'image, c'est la même chose que Shea Weber qui va étamper Braden Point du Lightning de Tampa Bay. tu sais, veut pas, Ovechkin sait c'est qui, Drouin, connaît très bien, sait c'est quoi. Je veux dire, mise en échec, oui, mais de là, écoute, si c'était pas assaut, ça, je sais pas c'était quoi. Et c'était prémédité parce que lui, je veux juste vous rappeler, les boys, lui, là, il patine toujours du devant, il est en repli défensif, patine du devant et coupe dans le centre de la glace. Fait que donc, son objectif, c'était de détruire quelque chose. Ouais, qu'est-ce que je vais pogner, je vais le détruire.
Ouais. Clairement, je suis d'accord avec toi. Puis oui, ses patins ont levé, là, on le voit. Pour moi, si c'est pas puni, puis si c'est pas plus que ça, ça aurait dû être revu de façon très serrée par le comité de discipline de la Ligue nationale. Puis moi, s'il avait été suspendu un match ou deux, là, j'aurais été fort d'accord avec ça. Je trouve que c'est le genre de coup qui est toujours un peu dangereux, surtout comme ça, là, milieu de la patinoire, bang. Tu l'as bien décrit, Jérémy, il y a un avantage de poids, de vitesse. Il était peut-être pas tout à fait en position de vulnérabilité, pardon, Jonathan Drouin, mais quand même un peu.
Oui, définitivement. L'autre chose, c'est un joueur vedette de la Ligue nationale, Alex Ovechkin. Il y a quand même plusieurs jeunes, là, je veux dire, si on va dans l'hockey mineur, il y a plusieurs jeunes qui prennent modèle sur lui. Quand tu fais un coup comme ça, ben il y en a toujours après ça qui veulent se réessayer. Puis d'ailleurs, Ovechkin l'a fait. Moi, aller en prendre un comme ça. Puis oui, ben tu sais, dans l'hockey mineur, t'en as qui font 5 et 10, puis t'en as qui font 5 et 2 dans mes équipes. C'est pas le genre de coup que j'aime voir au hockey. Tu sais, honnêtement, c'est pas vrai que j'ai vu le jeu quand je l'ai vu, puis j'ai fait comme ah, wow, ça, c'est une belle mise en échec. C'est pas mon premier réflexe quand je vois ça.
Et si, moi, je vous le dis, si jamais tu fais cette mise en échec-là, peut-être un petit peu moins parce que t'as vraiment pour moi prémédité, tu fais ça contre un gros bonhomme, contre Joel Armia, tu fais ça contre Ben Sherratt, tu fais ça contre Weber. OK, parfait. Contre Drouin.
Ouais, mais ça demeure. Moi,
Non, mais tu sais, c'est qui, là. Ovechkin, il sait, c'est qui.
Je le sais, c'est qui, mais je pense pas qu'Ovechkin doit s'excuser puis lever le pied parce qu'il est plus gros que les autres. Je veux dire, à quelque part, sa force puis son gabarit, ça fait partie de ses atouts, ça fait partie de ce qui fait de lui un joueur unique. Je pense pas qu'il doive nécessairement lever le pied.
Sauf que sans
lever le pied quand il lève les patins, pour moi, là, c'est ça le problème. Ouais,
puis la rondelle était derrière Drouin en passant, là. La rondelle était derrière Drouin. Fait que si lui veut jouer ou séparer le joueur de la rondelle, il s'en va à la rondelle. Il va pas sur Drouin.
Oui, mais il y a quand même un changement de direction qui est fait juste avant. En tout cas, j'ai tendance... Je suis pas le premier à défendre les grosses mises en échec en général, mais sur ce coup-là, je trouvais qu'il y avait assez de circonstances atténuantes, sauf une fois encore une fois, les patins.
Mais on sait que Ovechkin aime lancer des messages partout dans la Ligue et probablement qu'il vient de se dégager un petit espace de manœuvre supplémentaire pour les 2-3 prochaines semaines dans tous les matchs.
Définitivement, mais ça a pas aidé les Capitals de Washington. Parce que c'est à partir de là qu'on a eu l'impression que le Canadien a enclenché la deuxième vitesse. Mm-hmm. C'est là qu'on a marqué des buts. Fait que donc, ça n'a pas été nécessairement favorable. Laissons le dossier Ovechkin de côté. Parlons maintenant du dossier de Paul Byron. On a parlé d'une blessure au genou. Encore là, je relance la question. Est-ce que quelqu'un qui a vu quoi que ce soit à Paul Byron qui permet de dire qu'il y a une blessure au genou?
Il y a un croc en jambe dont il a été victime de, je pense, c'était Richard Panik. Et puis, je me souviens, moi, de l'avoir vu rentrer un petit peu difficilement là, vers le banc. Ensuite de ça, je vous cacherai pas qu'une fin de match, nous, ça va vite. Faut descendre dans la salle média, tout ça. On manque des petits bouts, des fois, là, de la fin de la troisième période, donc j'ai pas vu par après. Mais ce que je sais, c'est qu'en sortant de l'aréna, il y avait un petit peu de difficulté là, à marcher. Donc, c'est clairement là que s'est passé quelque chose. Est-ce que, moi, ce que je suis surtout curieux de savoir, c'est est-ce que ce choc-là a ajouté à quelque chose dont il souffrait déjà, ou est-ce que c'est une nouvelle blessure? Ouais. Pour le Canadien, je souhaite qu'il y avait déjà quelque chose et que c'est ce qui explique pourquoi c'était si difficile pour lui depuis le début de la saison. Mais dans tous les cas, je sais qu'il est tôt, mais je pense qu'on peut déjà dire que c'est une saison à oublier vraiment pour Paul Byron parce que là, il y en a, je pense qu'une opération, un genou comme ça, on s'entend que ça va être minimum un mois. Oui. Ensuite de ça, le retour va revenir dans un milieu de saison quand tout le monde va être en très grande forme. Même si son absence est relativement courte, je pense que ça va être difficile pour Byron cette année de redevenir le Paul Byron qu'on a connu les dernières années.
Ce qui explique son manque de vitesse cette année, parce que c'est un marchand de vitesse et définitivement, il n'avait pas la même capacité de dégager de la vitesse sur la patinoire, c'est clair.
C'est une conclusion logique, là, parce que manifestement, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec lui. Certains vont dire que c'est encore sa bagarre de l'an dernier. Peut-être que oui, ça a laissé des traces, c'est difficile à dire, mais c'est sûr que c'était pas le même joueur. Maintenant, je pense que parfois, Il faut dire des choses peut-être un petit peu plus dures à l'endroit d'un joueur. Est-ce que Paul Byron a déjà donné ce qu'il avait à donner aux Canadiens? Oublions pas, là, c'est un joueur qui a été laissé de côté par les Flames à l'époque. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une telle influence positive sur le Canadien. Il a donné déjà beaucoup, mais tu sais.
Je suis tout à fait d'accord, mais déjà, en fait, cet été, moi, je pensais qu'il était pour être échangé. Ils ont échangé Shaw à la place. Je vois pas du tout, en fait, où il va être dans l'équipe d'ici la fin de l'année, même l'année prochaine. Pour moi, c'est un petit peu comme un F1, là, une auto qui rentre au pit, puis là, toutes les autres équipes le dépassent, toutes les autres autos le dépassent. Je le vois pas dans le top 9 à la fin de la saison. Je le vois assurément pas l'année prochaine dans le top 9, même peut-être même difficile d'être dans le top 12. Et il jouait sur la quatrième ligne la saison dernière, à la fin de l'année, quand tout le monde est en santé. Là, on a joué un petit peu avec cette année, deuxième, quatrième ligne. Mais pour moi, c'est pas un... Il va être absent, c'est correct. On va ramener un joueur des ligues mineures, puis peut-être qu'on va jouer avec Suzuki à l'aile, on verra bien, puis Pelling va être appelé. Mais pour moi, c'est pas une blessure aussi importante que Drouin là, sur l'impact de l'équipe.
Parce qu'il est tellement sympathique, hein, Paul Byron.
Non,
tout le monde l'aime,
bien,
puis tout ça. Alors, c'est sûr qu'on on jette un regard bienveillant sur lui, mais tu sais, tout à coup, il faut regarder ce qu'on voit sur la patinoire aussi.
Mais peut-être
là.
Juste pour du moins, je vais vous donner mon point de vue là-dessus, mais quand on arrive sur le quatrième trio, tu sais, nous, on garde l'image souvent qu'un quatrième trio, c'est des gros gars qui frappent, qui sont là pour un peu intimider. Je pense que chez les Canadiens, le quatrième trio, c'est une façon d'aller chercher un petit peu plus d'offensive avec la rapidité qu'on a sur le quatrième trio. Fait que Byron, elle est bien sur ce trio.
Si ça avait été le Byron des années précédentes, avec la façon dont le quatrième trio joue, je pense qu'il aurait effectivement eu son utilité. Il aurait continué à être utile en désavantage numérique aussi. Il aurait eu un rôle pour lui. Il aurait été peut-être payé un peu cher pour ce rôle-là, 3,4 millions, mais ça, c'est pas son problème à lui, c'est le problème de Marc Bergevin. Ouais. Mais ça reste que oui, il aurait pu se trouver un rôle, une identité dans ce quatrième trio-là, où il n'y a aucun doute.
Écoutez, là, dans les 10 derniers matchs, un, c'est l'attaquant régulier qui a le moins de points de l'équipe, là, on s'en doutait, mais il y a 6 tirs dans ses 9 derniers matchs. En fait, il y a un match qu'il n'a pas joué. Écoutez, en la même séquence, Gallagher en a fait 32. Là,
mais c'est pour ça que
ben
je parle
Sherrod
du Byron des
19.
Années précédentes. Là,
pas, c'est ça. Fait que, pour
le
moi,
Byron de cette année, non.
Mais... on parle de joueurs de remplacement. Là, ils vont mettre quelqu'un dans le line-up à la place de Byron. Puis pour moi, c'est tout. Là, c'est pas une blessure du tout là, de la même ampleur que Drouin, qui lui va être difficile à remplacer.
Ouais. On va revenir sur ça, sur ce qui attend le Canadien là, au courant de cette semaine, en fait, avec les changements potentiels avec les blessures à Jonathan Drouin et à Paul Byron. Mais juste avant, je veux qu'on parle du match de samedi. Le Canadien qui affrontait les Devils du New Jersey et qui a perdu ce match-là en prolongation dans un drôle de match. Honnêtement, est-ce que c'est moi ou c'était un drôle de match? Un peu croche, drôlement arbitré, des hauts, des bas.
Je pense honnêtement que c'est un des matchs les plus longs auxquels j'ai assisté. Écoutez, le match commençait à 7h10, peut-être et 13, puis je pense qu'à 10h05, ça s'est terminé. Je dis pour un long match, puis ça n'a pas été en tir de barrage, puis il n'y a pas eu deux baies vitrées de cassé ou rien. C'était vraiment... les arbitres, puis il y avait également Keith Kincaid qui a immobilisé beaucoup de rondelles aussi, puis ça c'est drôle parce que les joueurs des Devils après le match en parlaient puis disaient c'est drôle avec lui, on dirait des fois les rondelles collent sur lui, puis les matchs que lui joue, souvent c'est des longs matchs parce qu'il y a beaucoup d'arrêts de jeu, puis je trouvais ça drôle d'entendre ses anciens chums.
Il s'est fait brasser aussi par ses anciens chums,
oui,
je sais pas,
ils sont pas
remarqué.
Gênés pour aller le voir.
Miles
Wood, Carl Palmieri, lui faut pas se surprendre parce qu'il le fait tout le temps. Je pense qu'il est déjà rendu à 3 ou 4 contacts avec Carey Price déjà au fil des années. Lui, faut pas trop se surprendre, disons. Puis maintenant, effectivement, ça a brassé autour de Keith Kincaid. Puis c'est drôle parce qu'avec le recul, je sais vraiment pas si Claude Julien a été jusque-là dans sa réflexion, mais on se demandait si Julien allait revenir avec Carey Price le samedi à Washington. Price a pas été bombardé là à Washington, on s'entend. Et puis finalement, ben, on arrive le samedi, Julien envoie Kincaid. Et quand j'ai vu Carl Palmieri foncer dans Kincaid, je me suis dit, est-ce que...
Il est en train de régler des vieux comptes?
Non, mais est-ce que Julien voulait éviter à Price d'être pris? Parce que c'est rendu fréquent, le Palmieri.
Et Palmieri a déjà eu une aventure avec Carey Price.
Avec Price, oui. Que ça
et on se souviendra des coups de bloqueur. Oui, les coups de bloqueur dans les côtes, là, à quelques reprises.
Price avait perdu patience,
c'est
pas à peu près.
Ben oui, exact.
Mais soyons honnêtes, ce match-là, c'est le match de l'indiscipline du Canadien de Montréal.
Ben, ça peut être un grand match. D'un autre côté, tu regardais le week-end dans son ensemble, vendredi, samedi. Moi, je pensais que le Canadien obtiendrait 2 points. Et les 2 points, c'était pas le vendredi soir que je les voyais. Bien sûr, comme tout le monde, c'était le samedi. s'en tire avec 3 points sur 4. Je comprends que c'est un peu décevant, ben, la fin de la rencontre et
Philippe,
tout.
3 points sur 4. En fait, tout le monde aurait pris les 3 points sur 4 vendredi à 19h.
Exactement, c'est ça. Alors donc, tu peux pas vraiment trop en vouloir aux Canadiens. Puis il y a une charge émotive du match de vendredi. Tu sais, c'est contre un gros adversaire. On savait que c'était un match test pour le Canadien. Est-ce que c'est une vraie bonne équipe, oui ou non? Puis là, tu vas battre Washington. C'est quand même très impressionnant. On perd un gros joueur en plus. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont produites.
Tu mènes 3-0. Mais le Canadien menait 3-0.
Ça fait plusieurs fois que ça se passe comme ça cette année. Rappelez-vous le voyage de 3 matchs dans l'Ouest. On avait dit 4 points sur 6. Ouais. C'est une belle récolte. Mais en même temps, c'est la façon. Tu sais, tu vas battre Las Vegas, ton 2e match en 2 soirs. Puis après ça,
avec tout un réseau.
Ouais. Puis après ça, tu te présentes pas à Dallas. On peut remonter la fin de semaine aussi où il y avait les matchs à Saint-Louis au Minnesota. Tu t'en vas battre les Blues de façon convaincante à Saint-Louis. T'arrives le lendemain contre le Mild du Minnesota et non pas le Wild et il s'écrase lamentablement.
Mais Guillaume, t'as écrit quelque chose de super intéressant dans la presse. C'était, je pense, dimanche matin sur l'utilisation des gardiens réservistes par les adversaires du Canadien. Tu peux peut-être rappeler les chiffres, là, tu dois les avoir en mémoire, mais c'était près de la moitié des matchs,
ben,
c'est gardiens
exactement.
Réservistes.
Là, Blackwood est le numéro un des Devils maintenant. Donc, c'est 9 matchs sur les 20 du Canadien qui ont été contre des gardiens auxiliaires. Et dans ces 9 matchs-là, fiche de 7 victoires, 2 défaites.
C'est là que tu vois que le Canadien ne génère pas nécessairement le respect envers la Ligue nationale de hockey. Et sauf que là, peut-être qu'on va commencer à les prendre de façon différente. Parce que là, on a quand même un total de 26 points. On est 2e dans la division Atlantique. Vous allez me dire, c'est extrêmement serré. Vous avez raison. C'est tôt dans la saison. Vous avez raison. Mais peut-être qu'à la perception.
Aussi.
Première équipe à 5 contre 5.
Ben, première équipe à 5 contre 5. Ils sont dans le top 5 pour les buts, pour la moyenne de buts depuis le début de la saison.
C'était l'adversaire, là. Le coach adverse. Tu regardes, tu pognes ta feuille de formation.
Dis-le comme tu dis. Tu pognes le line-up.
Tu pognes le line-up. Tu regardes ça. Puis tu dis, ça, c'est la plus grosse offensive de la Ligue nationale à 5. Voyons, ça durera pas, tu sais, puis tu remets ça, tu dis, on n'a pas besoin, ça n'a pas de bon sens, là. Et Philippe Dano, c'est quoi, le premier joueur de centre de l'équipe? Écoute, c'est pas Connor McDavid, là.
Mais comment on explique ça, Alexandre? Comment on explique la qualité offensive du Canadien?
Ben moi, en fait, je pense que clairement, le Canadien n'a pas le meilleur premier trio de la Ligue, là. On va tous s'entendre là-dessus. Mais si on additionne le premier puis le deuxième, puis on compare les deux premiers, ils sont dans la moyenne de la Ligue. Là où la troisième et la quatrième ligne sont plus fortes, à mon avis, que le reste de la... Tu sais, la quatrième ligue du Canadien, sérieusement, j'ai pas fait le calcul, là, mais si on calcule les points ou la contribution offensive, clairement, ils sont dans les meilleurs de la Ligue. Fait que le Canadien, c'est comme une équipe avec 2 deuxième lignes puis 2 troisième lignes, un petit peu. T'as pas les extrêmes, première et quatrième. C'est un petit peu plus difficile, en fait, de jouer, je pense, contre le Canadien. Tu sais, t'envoies une ligne offensive, le Canadien est capable de mettre des two-way players, des joueurs dans les deux centres contre eux. Puis après ça, le Canadien, il va avec une ligne qui est capable de produire offensivement contre une ligne qui est offensive. Ça doit être difficile, en fait. Honnêtement, je me mets dans la peau d'un entraîneur adverse. Ça doit être assez difficile de jouer contre la Canadienne.
Mais
vas-y. J'allais juste dire, par contre, que les récents changements qu'il y a dans la formation avec Domi qui est rendu à l'aile, Suzuki au centre du deuxième trio et Kotkaniemi qui revient, je suis moins sûr surtout de l'efficacité du troisième trio. Parce que là, sur ton troisième trio, là, t'as Kotkaniemi au centre, qui a encore rien cassé cette année. T'as Jordan Will comme ailier.
C'est sûr qu'avec les
sauf que t'amènes la rapidité de Jordan Will. Ça peut être intéressant.
Un but magique contre les Capitals. Il a fait un 3-2-3-160.
Même moi, je l'aurais arrêté.
Time out. Messieurs, attendez une minute. Je veux juste dire une chose. Tu sais, quand on souhaite que quelqu'un fasse bonne impression à son retour dans la formation, maintenant, on va appeler ça faire un Jordan Will, s'il vous plaît. Non, mais c'est incroyable. Le gars, il marque un but.
C'est un bon joueur, Jordan Will.
Non, c'est un bon joueur, il n'y a aucun doute, mais là, il va jouer avec un joueur de centre qui a rien cassé cette année. Puis l'autre allié, c'est Arturi Lehkonen, qui fait plein de bonnes petites choses, mais ça finit jamais dans le but.
Rien de grosses choses.
C'est ça, exact.
Moi, je ne vais pas être plate, là, mais le meilleur atout offensif du Canadien, pour moi, il y a le numéro 31. Parce que quand le numéro 31 est dans son match, tout le monde devient tellement meilleur. C'est renversant, puis ça fait des années que c'est comme ça. La conversation qu'on a aujourd'hui, là, on aurait pu l'avoir en 2014, en 2015, en 2016. On a vu quand il était pas là ce qui est arrivé, puis quand il y a plus dans lui. Mais quand lui, et je parle de Carey Price, bien sûr, quand il est au sommet, puis quand il inspire confiance, il rend tout le monde meilleur. Tu sais, l'autre jour, là, tu le voyais contre Washington. Quand le Canadien a pris une avance de 2-0, disons, pas 1-0, mais à 2-0, tu regardais ça, puis tu dis, Washington, est-ce qu'ils ont l'air d'une équipe qui va le battre ce soir? Pense pas. Ça avait pas l'air de ça. Il était tellement confiant. Tu sais, alors, il rend tellement tout le monde meilleur que je pense que c'est ça qui compense l'absence d'un gros premier joueur de centre, tu sais, de vraiment, ou des, comme on dit, des snipers en attaque. Il n'y en a pas chez le Canadien, mais moi, je pense que c'est ça qui fait la
Sauf
la différence.
Que si tu ne veux pas toujours être pris à te battre pour meilleur deuxième, tu auras besoin, un moment donné, d'avoir ce genre de joueur-là dans ton alignement. Et savez-vous quoi? Quand je regardais, entre autres, contre les Kings de Los Angeles, je regardais les joueurs qui discutaient avec Carey Price. Entre autres, on l'a vu contre les Devils New Jersey également. Pas les Devils, mais les Capitals de Washington. On sent le respect des autres clubs de la Ligue nationale envers Carey Price. Ce que ça m'a amené comme réflexion, c'est Marc Bergevin peut pas se permettre d'attendre trop longtemps. Parce que ce gars-là, présentement, je pense qu'il est au sommet de son art. Présentement, là, et ça va pas durer pendant des décennies, cette histoire-là. Il va falloir qu'on bouge rapidement pour ramener
lui-même, il commence à être impatient.
Il a dit,
écoutez, je ne pourrais pas attendre. Il l'a pas dit dans des termes aussi crus, mais ce que ça voulait dire, c'était je peux pas attendre trop longtemps. Là. Je suis dans la trentaine, puis c'est là qu'il faut que ça se passe dans les deux ou trois prochaines années.
Puis lui, pour lui, puis son chum Weber. Ouais.
Ouais. Oui, exactement.
C'est qui est encore plus... qui est peut-être plus près de la fin que le Carey Price. Il est un petit peu plus vieux, puis il joue une position plus difficile. Carey Price, moi, quand je regarde aller Pekarine depuis quelques années, je me dis que Price a peut-être plus de bonnes années devant lui que ce que des gens veulent bien croire. Mais pour
si Weber, lui veut continuer, parce que je suis pas convaincu, lui, il a le goût de continuer jusqu'à 39 ans, là, c'est sûr et certain. Il me semble un gars qui veut gagner là, dans l'immédiat.
Ouais, je pense que quand t'arrives en haut de 35 ans, là, tu commences à te voir monter vite là, sur la liste là, des victoires et des records. Et je pense qu'il est assez compétitif.
Peut-être. Oui, t'as raison. T'amènes un point. T'as raison.
Je pense que de rentrer dans le top 5 de l'histoire pour les victoires, là, c'est un bel objectif de la carrière.
J'achète. Messieurs, on a parlé du match des Devils et il n'y a personne qui m'a parlé de l'indiscipline de Max Domi.
Il a l'air fâché de jouer à l'aile, non?
Il y avait quelque chose en lui, en tout cas, je sais pas si c'était ça, mais il y avait clairement quelque chose en lui. Il y avait un feu qui l'a mal canalisé.
Comme disent les Grecs, là, son body language à l'aile n'est pas le même qu'au centre. Il a l'air d'avoir pas mal moins de fun de jouer à l'aile, moi, je trouve. Là. Ben, il a été horrible, là, sérieusement. Tous ses chiffres de la partie de samedi sont absolument terribles. Il est le pire de l'équipe, notamment pour le Corsi, donc les tirs tentés versus...
Le gars qui contrôle le plus la rondelle sans jamais lancer au filet. C'est incroyable. Ce gars-là ne lance pas au filet. Il contrôle, déjoue, mais lance pas au filet. Comment tu veux marquer des buts?
Maintenant qu'il est allié, j'ose espérer qu'il va peut-être comprendre que ça va faire un petit peu plus partie de son rôle là, de faire ça. Mais il va falloir le régler aussi parce que de l'autre côté, à droite, Yoel Armia ne lance pas plus. C'est un joueur que j'aime beaucoup, Yoel Armia, je vois beaucoup de qualité, mais depuis 5, 6, 7 matchs, souvent là, tu le vois arriver, il y a des beaux jeux qui se dessinent, puis il tente la passe de plus.
Les deux gars ont seulement deux buts ensemble là, dans les 10 derniers matchs, puis leur pourcentage là, de tir, ça va pas là, présentement. Domi a été très chanceux, l'année dernière, à un moment donné, il était genre à 24%. Là. Dans les 10 derniers matchs, il était à 5%. C'est un vrai problème là, pour le Canadien.
Puis ça nous rappelle aussi que Domi, même en Arizona, même quand ça allait bien en Arizona, c'était pas non plus un marqueur né. Puis ça se peut que l'an passé, on ait vu sa meilleure saison en termes de buts.
Donc on dit, Armia lance pas, Domi lance pas, puis Suzuki, c'est un bon passeur. Ça va faire des flamèches.
Armia, il lance encore, mais il pogne pas souvent. C'est ça le problème. Il tire beaucoup à côté.
Mais tu sais, quand tu es dans une année qui va être déterminante sur ton prochain contrat,
ça
apporte une pression supplémentaire. Puis peut-être que tu t'impatientes un peu trop. Ça marche pas. Oups, t'as pas eu le match que tu souhaites. Là, tu t'impatientes un peu. Mais quand tu t'impatientes, généralement, tu joues pas mieux. C'est au contraire. Tu vas sortir de ta zone habituelle, puis tu vas tenter des choses qui sont pas dans ta tasse de thé, puis c'est là que ça empire, puis là, ben tu fais une gaffe, puis tu prends une punition, puis une autre, puis là, le coach, après le match, tu sais, se gêne pas trop pour dire que oui, puis là, c'est de ta faute pas mal, puis là, t'es obligé d'aller devant tous les journalistes, puis de faire ton meilleur culpa. Tu sais, c'est pas le fun, là. Il a pas passé un beau samedi, là.
L'enjeu financier est énorme aussi, parce que, oubliez pas, l'an passé, 72 points. S'il revient cette année avec une autre saison, dont on va dire 65 points, je pense que pour le Canadien, c'est ce qu'on appelle un no-brainer. Tu essaies d'y aller à long terme, à 5, 6, 7 ans. Le chiffre est gros. S'il finit l'année avec 51 points, puis qu'il prend des mauvaises pénalités, puis qu'il boude, puis qu'on sait pas s'il est allié ou centre, est-ce que là, t'es le Canadien, tu t'engages avec lui?
Puis là, tu t'en vas en arbitrage? Ouais, ben avec lui. Ben, là, imagine devant l'arbitre. Là. Ben, ça peut briser une relation. Là, on a beau
ça
dire.
Ça fait
là,
mal, ça, c'est clair.
Souban, Bergevin, à l'époque, là, devant l'arbitre, là, ça n'a pas été très bien.
On s'attend aussi que le salaire entre un premier centre puis un deuxième allié, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça que je suis pas sûr qu'il soit content présentement.
Non, mais c'est des gros
T'as eu une bonne lecture du body language, honnêtement. T'as une bonne lecture.
C'est de très gros enjeux financiers qui se décident cette saison pour Domi. Puis je suis absolument convaincu. Je sais que les joueurs disent qu'ils pensent pas, mais c'est pas vrai. C'est un mensonge. Ils pensent tous.
Ils font que penser à ça. Messieurs, dans le match, Philippe Dano s'est vu refuser un but. Un mouvement avant du bassin pour marquer un but. Finalement, l'officiel a dit non, c'est pas, ça fonctionne pas de cette façon-là. En plus, il est copié d'une pénalité en prolongation qui a amené au but des Devils New Jersey. Et après le match, Philippe Dano est sorti publiquement en disant « Les officiels nous ont volé le match aujourd'hui ». C'est la deuxième fois récemment qu'un membre du Canadien de Montréal qui sort publiquement contre les officiels. Après Claude Julien, vous en souviendrez, pénalité contre les Flyers de Philadelphie, pénalité pour avoir retardé le match. Il a dit « C'est sur eux, c'est eux qui ont pris une mauvaise décision ». Depuis le début de la saison, Claude Julien a eu maille à partir avec les officiels à quelques reprises. Est-ce que le Canadien est marqué? Est-ce que les officiels regardent le Canadien maintenant en laissant aucune marge de manœuvre, selon vous?
C'est sûr que je trouve que c'est une question qui est difficile à juger pour nous de l'extérieur parce que il y a une espèce de phénomène naturel qui est quand tu regardes un match à la télévision, c'est sûr que dès que l'entraîneur chicane avec l'arbitre, tu vas le voir automatiquement. Puis c'est vrai pour Claude Julien, mais c'est aussi vrai pour John Tortorella. Regardez un match contre les Blue Jackets, c'est le nombre de fois où
il
la caméra...
Il s'est déjà choqué, Tortorella?
Ça arrive jamais, très rarement.
Mais à chaque fois qu'il y a une décision, la caméra va sur Tortorella, puis là tu le vois, là, les faces qu'il fait, puis je dis... Tout le temps, c'est systématique. Mais on voit pas l'autre côté de la relation, par contre. On voit pas aussi quand il y a des rapports plus harmonieux pis tout. C'est sûr que ça peut peut-être un peu fausser notre perception. Puis moi, je me suis fait... En fait, la réflexion m'est revenue cette semaine parce que... Quelqu'un me racontait que pendant un des matchs de la semaine, Max Domi commençait un peu à perdre patience. Puis l'arbitre lui disait... Là, t'arrêtes, sinon je te sors. Puis bon, finalement, il s'est calmé. Et Claude Julien a poussé une blague à l'arbitre en lui disant, t'es chanceux, toi, t'as juste à le gérer ce soir, moi, je le gère pendant 82 matchs. Donc, d'entendre que Claude Julien avait des blagues comme ça avec les arbitres, mais je me suis dit, ces boulons, on les voit peut-être moins à télé, puis c'est normal, là, parce que c'est pas visuellement, tu le vois pas, mais je pense qu'il y a une relation qui est peut-être plus nuancée que ce qu'on voit quand même.
Moi, ça m'apparaît beaucoup, surtout pour un coach comme Claude Julien. Je pense que les arbitres respectent Claude Julien. Il y a un parcours dans la Ligue nationale qui vaut le respect. Il est là depuis longtemps. Il a dirigé pendant des années les Browns. Il y a une Coupe Stanley. Je pense qu'avant de faire de Claude Julien un homme marqué, là, les arbitres, ils vont respirer par le nez. Puis, tu sais, au mois de novembre, là, c'est un peu tôt. Cela dit, est-ce qu'on veut envoyer un petit message? Ça, c'est possible parce que, oui, c'est vrai qu'il a été, Jérémy, tu le mentionnes, très vocal après le match, surtout que le match à Philadelphie. Puis ça, c'est jamais une bonne idée, mais je pense pas encore que le Canadien soit une équipe marquée.
Non, puis pour revenir, le but de Dano, sérieusement, avoir été un arbitre à Toronto, je l'aurais pas donné non plus. Clairement, il pousse.
Mais la main de Nico Hischier sur la ronde. Ça, c'était...
Oui, mais c'était un scrum, c'était très très dur à voir, puis c'est pas un jeu que tu peux pas décerner un tir de pénalité à la reprise vidéo.
Et on s'attend que Dano reste pas immobile. Là.
Il bougeote un peu.
Mais, ouais, il rentre avec la rondelle dans le fil.
Il fait le bacon un petit peu pour essayer d'avancer la rondelle.
Le porteur de ballon qui rentre dans la zone de toucher avec le ballon.
Ça va l'air d'un QB sneak.
Hey messieurs, pendant le match, Piqué a été hué. Piqué était hué. Ça a fait parler énormément sur les réseaux sociaux. Tout le monde a réagi à gauche, à droite, des gens de hockey, des gens pas de hockey, des artistes, des gens, monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde avait son mot à dire sur Piqué. Est-ce que cette situation-là nous dit que on a tourné la page sur Piqué Subban? On arrive en fin de parcours je dis pas de l'histoire d'amour, mais du mélodrame Piqué Subban?
Non, moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que quand t'as une réaction comme celle-là, je pense que pour dire que on arrive au bout du parcours, il aurait fallu que ça soit,
Il se passe rien.
Tu peux applaudir peut-être au début ou un petit peu hué, puis merci, bonsoir, c'est réglé, on passe à autre chose. C'est maintenant dans la normalité des choses. Il y a un numéro 76 dans l'autre chandail qui vient jouer, puis on le regarde jouer, puis c'est tout. Mais là, c'est pas ça. C'est encore extrêmement émotif. Ça fait en sorte que les gens qui étaient là ont beaucoup hué. J'ai très hâte de voir. Les Devils reviennent à Montréal très rapidement, dans la semaine prochaine. Donc, c'est deux matchs très rapprochés. Alors, j'ai hâte de voir si toutes les remarques qui ont été faites là, à la suite des huées, si ça va se transformer en applaudissements le prochain match ou encore si les huées vont redoubler d'ardeur. Mais tu sais, tu regardes... comment dire, le Canadien comme organisation semblait tellement content du départ de Piqué Subban que moi, ça, j'ai l'impression qu'à quelque part, ça laisse des traces. Les gens, ils suivent un peu l'organisation. Tu sais, l'organisation célébrée chez Weber. On l'a nommé capitaine à la première occasion. Marc Bergevin, cette année, dans son entrevue, a dit l'échange, j'en suis le plus fier. C'est celui de chez...
C'est d'avoir mis de l'huile sur le feu.
Alors, tu sais, les gens entendent tout ça puis ils disent, coudonc, puis Piqué, c'est épouvantable. Piqué, il met la musique forte dans le vestiaire.
OK, tu penses que ça a été brainwashé assez pour que tout le monde se mettre à chahuter contre Piqué.
Je pense qu'il y a un climat un peu autour de Piqué Subban là, et de sa relation avec le Canadien.
OK, il y a un nuage gris au-dessus de sa tête. Ouais, Alexandre?
Moi, j'ai écrit là-dessus ce matin. J'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires, notamment des gens qui ont eu Piqué Subban. Puis, tous les gens, je leur demandais, mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que là, la grande théorie, c'est, mais c'est le meilleur joueur de l'autre équipe, fait qu'on l'a eu, ça fait partie. Je m'excuse, mais c'était pas ça. Là. Les gens qui m'ont écrit, ils détestaient Piqué Subban, puis pas un peu. Là, hein. C'est un, ça se répète même pas dans un podcast. Là. Mais oui, en effet, c'est des gens qui achètent beaucoup là, la théorie selon laquelle bon, c'est un joueur individualiste, c'est un joueur qui pense juste à lui, ce qui était peut-être vrai par ailleurs dans le vestiaire, peu importe, je vois pas... Pourquoi les gens eurent un gars qui a été cherché? Tu sais, Piqué Subban, il a signé un contrat là, de 8 ans. Là. Il voulait jouer à Montréal pour les 20 prochaines années. C'est le Canadien qui l'a échangé. Il n'a jamais demandé à partir. Après ça, il revient ici, il retourne dans les hôpitaux. Il y a des joueurs là, qui retournent dans leur ancienne ville à les donner à des hôpitaux. Là. Ça, il y en a peut-être d'autres, là, mais tu es compte sur les doigts d'une main. Pour moi, c'est un petit peu comme quand l'Impact avait échangé Laurent Simon. Il était vraiment fâché. Ben, après ça, quand Simon est revenu la première fois, tu ne l'as eu pas. Ça se fait pas. Le gars, il veut jouer à Montréal. Il a été échangé.
C'était pas son premier retour.
Il y avait toute une ovation quand il est revenu pour la première fois. Je pense que c'est ça qui marque le plus aussi.
Oui, ben c'est ça. Mais en fait, le bout, moi, qui m'a intrigué là-dedans, c'est qu'est-ce qui a changé entre le match d'en fin de semaine puis les fois d'avant où il est revenu. C'est pas comme si, entre-temps, il avait fait des déclarations incendiaires. C'est pas comme si, justement, il avait délaissé ses engagements à Montréal.
Au contraire,
il restait. Tout ce qui a changé, c'est qu'il a changé d'équipe, c'est tout. Mais je pense pas que les gens le huaient parce qu'il joue pas.
Je vais vous dire une chose. Si jamais le Canadien connaît un début de saison médiocre, qui est au bas du classement, je pense qu'on applaudit Piqué Subban puis on l'encourage à chaque fois qu'il est sur la patinoire. Mais vu que le Canadien connaît un peu de succès, Piqué, on n'a plus besoin de toi. Chou.
Moi, je pense qu'il y a du monde qui se trouve très drôle, en fait. Moi, je suis plutôt en faveur du chahutage. Vraiment, je suis capable d'en prendre. Là. Mais je pense qu'il y a des... Encore là, puis je pense que c'est une foule un petit peu plus jeune là, que... Je pense que les gens qui ont plus de 50, 60 ans, ils ne faisaient pas partie de ce groupe-là. En tout cas, de la petite démographie que j'ai fait, là, des commentaires que j'ai reçus. Il y a des gens qui trouvent ça franchement très drôle d'insulter des joueurs de tomber sur un joueur. Ils vont huer McDavid, ils vont huer plein de gens, ils trouvent ça le fun. Honnêtement, il y a vraiment des fois que je comprends pas trop le but. Là. Vraiment pas.
C'est surtout pas d'un gars qui veut jouer à Montréal. Peut-être un phénomène d'entraînement aussi. Ben, il y en a quelques-uns qui huent, il y en a plus. Ouais. Puis tout ça. Mais c'était pas édifiant. Puis lui-même, ça a pas dû l'impressionner beaucoup.
À moins que je me trompe, quand Sakoivu est venu, il a été acclamé avant l'hymne national. On lui a fait une présentation. Puis à un moment donné, durant les présences, durant le match, il a été chahuté. Puis quand le match, il a eu la deuxième étoile du match, il est applaudi à Toronto.
Il n'y a pas autant que ça. Moi, j'ai regardé.
Non, mais on était un peu bipolaire.
Charity aussi, c'était comme une personne dans section 312, puis une dans 119. On les entendait à la télé, les huées là, pour Subban. C'était quand même plus soutenu. Et Guillaume, tu étais au match. On les entendait très bien. C'était très tout fort. Le match. C'était pas deux présences.
Absolument, c'est ça, exact. C'est pas des fois, tu vois ça, les deux, trois premières présences, puis là, éventuellement, les gens stand. Mais non, pas dans ce cas-là. Je vous confirme que ça a vraiment duré tout le long.
Il lance la rondelle simplement dans le territoire offensif. Piqué Subban recherche l'attaque de Subban. Arrive en territoire central, il accélère, veut déjouer Dano, remet derrière lui à la remorque.
Messieurs, le temps file rapidement. Avant qu'on regarde ce qui va se passer cette semaine pour le Canadien, je veux qu'on fasse un saut du côté de Toronto parce que chez les Leafs, écoute, c'est le gros pick-up. On était supposé d'avoir amené avec John Tavares une formation, être capable de participer aux séries de fin de saison, une formation qui pourrait challenger pour la Coupe Stanley. Et là, je dis pas que ça sera pas le cas, la saison est très très jeune. 22 matchs de jouer seulement pour les Leafs de Toronto, mais 22 points seulement en 22 matchs. 4 défaites de suite en temps réglementaire, plus une défaite qui était en tir de barrage. Donc, on peut dire 5 défaites lors des 5 derniers matchs. écoute, ça va pas bien. J'ai une expression que je peux pas dire, mais disons qu'on n'est pas heureux du côté des Leafs de Toronto.
C'est drôle parce que j'ai lu deux chroniques en provenance de Toronto ce matin, une sur Sportsnet, une dans le Toronto Star. Et puis là, écoute, tous les scénarios sont évoqués. Là, même, on s'en va vers une année catastrophique. Peut-être qu'on pourra repêcher parmi les 10 premiers. Ça serait pas mauvais.
J'ai entendu ça à Montréal.
Mais je pense que, écoute, ils sont vraiment, ça va vraiment mal. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions posées à Mike Babcock. Est-ce qu'il est capable de s'ajouter aux jeunes? Au directeur général aussi, Kyle Dubas. Est-ce qu'il a composé une équipe qui est vraiment taillée sur mesure pour la Ligue nationale d'aujourd'hui? C'est des sacrées bonnes questions. Mais moi, au bout du compte, je regarde cette équipe-là et je me dis, ils ont tellement de talent et ils ont un pas pire gardien de but. Il me semble que tout à coup, là, ils vont mettre un terme à ça. Puis je serais pas étonné de les voir partir là, en décembre, par exemple, avec une série. Là,
c'est sûr. C'est
15 victoires en 20
matchs.
Pire, là,
Philippe, puis... il y a des gars qui vont très bien, là, même dans la séquence négative. Écoutez, dans ces 10 derniers matchs, Austin Matthews, 15 points. Quand même. John Tavares, c'est un point par match. Nylander, qui faisait absolument rien. Nylander, c'est un point par match. Une chose, par exemple, qui n'aide pas, c'est la blessure à Mitchell Marner. On s'est demandé, c'était qui le joueur le plus utile des Leafs? Est-ce que c'était Matthews? Est-ce que c'était Marner? Ben là, Marner n'est pas là. Puis soudainement, ils n'ont pas gagné un match depuis que Marner est absent.
Ils ont perdu les 4 matchs.
Ça compte, ça aussi. Là.
Ben oui, ben c'est ça. Austin Matthews va toujours avoir l'image de la super vedette parce qu'il a été repêché premier puis parce que c'est lui qui a mis dedans. John Tavares va aussi avoir cette image-là parce que il est arrivé à Toronto, il a choisi Toronto, il est un joueur autonome, il est arrivé avec un gros contrat. Et on dirait que Marner, des fois, passe un petit peu plus inaperçu, disons, derrière ces deux gros noms-là. Mais je pense qu'en ce moment, s'il y a une preuve de l'importance de Mitch Marner à cette équipe-là, on la voit en ce moment, puis, 4 défaites en 4 matchs.
Puis l'autre gros point qu'ils ont, honnêtement, leur deuxième gardien de but, ils n'ont aucune victoire de leur gardien second et le troisième gardien depuis le début de l'année. C'est des chiffres pathétiques. Là. Ils ont 850, je pense, de pourcentage d'arrêt, les deux ensemble. Ils étaient soumis, je pense, au balatage cette semaine, Michael Hutchinson, là, ils s'en viennent avec un Finlandais, j'ai jamais entendu parler, le Casimir Kassikoukou.
Puis, tu sais, quand on parlait pour Max Domi tantôt que ça lui trottait dans la tête son contrat, Tyson Barrie, c'en est un autre qui peut passer à la banque et qui s'en est un autre qui joue comme un gars qui pense peut-être trop à autre chose que le hockey en ce moment. 22 matchs, 6 passes, aucun but.
Ouch.
Moins 10, c'est...
Un marché très, très bouillant à Toronto et je suis convaincu tout le monde a déjà eu la chance d'aller dans le vestiaire des Leafs de Toronto. Si on dit qu'il y a beaucoup de journalistes à Montréal, il faut comprendre qu'il y a anglais, français, mais là-bas, c'est juste anglais et c'est beaucoup.
Il y en a
beaucoup. Fait qu'il y a de la pression beaucoup du côté des Leafs de Toronto. Bon, ben messieurs, ça tire à sa fin. Avant qu'on se quitte, on va se parler du match de mardi, mercredi. Donc, mardi, le Canadien qui affronte les Blue Jackets à Columbus. Un 2-2 encore une fois. Et mercredi, ça sera les Sénateurs d'Ottawa qui sont de passage au Centre Bell. Vous êtes obligé de sortir votre boule de cristal. Vous allez jouer à Madame Minou et vous allez me dire est-ce que le Canadien va être capable de récolter 4 points sur 4 dans ce périple de 2-2 dans le duel face à Columbus et les Sénateurs d'Ottawa. Guillaume, dans un premier temps.
Victoire à Columbus, défaite contre Ottawa.
Ah oui. Quand même, Ottawa qui connaît du succès là, tout récemment. Attendez, j'avais une statistique qui était 6 victoires, 4 défaites à leurs 10 derniers matchs côté des Sénateurs d'Ottawa.
Puis là, le Canadien va être un deuxième match en 2 soirs, peut-être contre Keith Kincaid en plus.
Donne la victoire au sénateur.
Oui.
OK, Philippe, ta boule de cristal, t'as dit quoi?
Le contraire. Défaite à Columbus, victoire contre les sénateurs à
Montréal.
Parfait,
c'est un 2 points sur 4. Alexandre?
2 points sur 4.
2 points sur 4, moi, je vais y aller.
Conqui!
Deux défaites en prolongation. Non. Je vais avec Guillaume.
OK, parfait, numéro 1.
Victoire à Columbus, c'est bon.
Moi, je vais avec 4 points. 4 points, 2 victoires contre Columbus, contre les Sénateurs d'Ottawa. Attention à la profondeur du Canadien. On aura la chance d'entendre que ça donne vendredi prochain cette autre édition de Sortie de zone. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, Jérémy.